Israël. Gardons ces paroles dans notre cœur et laissons-les faire leur œuvre. Mais en même temps, ne soyons pas de ceux qui oublient, ne soyons pas de ceux qui négligent, ne soyons pas de ceux qui rejettent d'un bloc, et encore moins de ceux qui se disent « c'est pour les autres et pas pour moi ». Que le Seigneur puisse encore interpeller nos cœurs. Amen. Ouvrons ensemble la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 24 au verset 34. Matthieu, chapitre 6, verset 24 à 34. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements ? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi serons-nous vêtus ? » Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ce matin, nous allons méditer sur ce texte qui nous amène finalement à faire un examen de cœur et aussi en même temps de se dire, Seigneur, quelles sont les conséquences pour ceux qui, peut-être, ils ont un cœur partagé. Partagé parce que les circonstances peuvent parfois prendre de l'ampleur dans nos sentiments, dans nos ressentis, dans nos projets d'avenir. Parfois, nous organisons dans notre cœur, dans nos pensées, des choses. Et après, il y a des événements qui peuvent finalement nous mettre en crise. Quand nous regardons ce qui se passe autour de nous en ce moment, il y a une forme d'insécurité. Beaucoup remettent les projets à un temps plus calme. Si quelqu'un ce matin se dit ben voilà, moi j'avais tel et tel projet, mais regardez, on est dans la crise, il y a un problème, il y a l'insécurité, il y a tellement de choses qui font que je préfère me retirer pour l'instant, on verra ça un autre moment. Même des couples aujourd'hui préfèrent ne pas avoir d'enfants par peur du lendemain qu'ils offrent à leurs enfants. Alors moi, je voudrais vous dire que sur ce point en particulier, faites attention parce que ça aussi, c'est une ruse de l'ennemi. Qu'est-ce que Dieu avait dit à l'homme et à la femme ? Croissez et multipliez-vous. Vous ne pensez pas que les défis qui existaient déjà avant étaient supérieurs, étaient meilleurs, les temps étaient plus faciles ? Chaque époque a vécu des choses difficiles. Et si ce matin, on posait la question à ceux qui nous ont engendrés, ils nous diraient qu'aussi de leur temps n'était pas facile. Est-ce que Dieu était fidèle ? Je le crois. Est-ce que Dieu demeure fidèle ? Je le confesse. Est-ce que Dieu est toujours fidèle ? Je le proclame. Et c'est sur ça que je dois poser ma vie. Alors ce matin, je voudrais nous inviter à ne pas laisser l'inquiétude prendre place. D'ailleurs, dans ce texte, il est question, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre ». Si l'on fait bien attention, le texte nous parle de servir et non pas de profiter ou de bénéficier. Aujourd'hui, quand quelqu'un est invité à répondre à une offre de travail, Certes, il se présente, il partage son parcours de formation, son expérience, mais après, il y a un moment où il veut savoir aussi qu'est-ce qu'il doit attendre de la part de la société. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que je vais gagner? Et après, s'il a plusieurs offres, il va commencer à faire le parallèle entre l'une et l'autre et dire, écoutez, moi, ailleurs, on m'offre quand même 13e, 14e, 15e mois. Homme de peu de foi. Finalement, la personne qui va dans un travail, qui va dans un service, il essaie de trouver là où ça lui convient le plus, là où il a plus, je dirais, de points positifs, de bénéfices. Travailler moins. Ah, vous connaissez, hein. Il y a plein de choses comme ça qui finalement, parfois, excusez-moi, ont tendance à venir et envahir notre cœur par rapport à la vie spirituelle. Qu'est-ce que Dieu peut m'offrir? Qu'est-ce que le monde peut m'offrir? Et quand je parle du monde, c'est Satan. Je vous rappelle que lors de la tentation, Satan va proposer des choses à Christ que Christ ne nous propose pas, non? Le Seigneur, certainement, il ne va pas nous inviter à avoir un œil sur le monde et les richesses du monde, il nous dira plutôt de les abandonner, n'est-ce pas? Donc, parfois, on peut être dans ce conflit, dans ce truc de dire, mais qu'est-ce que j'y gagne finalement à être chrétien? Et plus qu'à être chrétien, qu'est-ce que j'y gagne à être enfant de Dieu? Parce que ce n'est pas une étiquette. Qu'est-ce que je gagne à être enfant de Dieu? Quelque chose que l'ennemi ne pourra jamais te donner. La paix. Quelque chose que l'ennemi ne sait pas donner. L'amour. Quelque chose que l'ennemi lui-même, il en est privé. Le salut. Il n'y a que Dieu qui peut te l'accorder. Et c'est pour cela que ce n'est pas une question de dire « mais qu'est-ce que je vais y gagner ?» Mais c'est de dire « qui est-ce que je veux servir ?» Dans ce texte, il est question de service. Et dans l'Ancien Testament, la racine hébraïque du mot « service » veut dire « esclave ». Signifie finalement « travailler, peiner », donc servir quelqu'un par son travail. Mais il est aussi vrai que dans l'Ancien Testament, la relation serviteur-maître caractérise surtout celle des Israélites avec Dieu. Se reconnaître serviteur de l'Éternel équivalait à adorer l'Éternel. C'était affirmer son entière dépendance de lui. Vous connaissez ce psaume, le psaume 123, verset 2, qui dit « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. » Amen. Avoir finalement et savoir qui nous désirons servir et en même temps comprendre le mot serviteur. Dans ce texte, comme ailleurs, le mot service est essentiellement une signification cultuelle. Parfois, quand on parle d'être serviteur, nous, on voit tout de suite l'esclave. Coup de fouet. Hein ? Souffre cheval. Hein ? On voit des images qui sont celles que le monde offre. Parce que l'ennemi, quand il rend quelqu'un esclave, c'est ça le sens. La personne n'a plus de vie à elle-même. La personne, finalement, elle ne vaut plus rien. La personne n'est que un jouet entre les mains de celui qui le manipule. Ça, c'est l'ennemi. Mais servir l'Éternel, c'est rendre un culte à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? On y reviendra. C'est la vocation d'Israël de servir l'Éternel avec joie, ayant été libéré par lui de l'esclavage des hommes en Égypte. C'était un grave péché que de servir d'autres dieux. Vous vous rappelez quel est le commandement qui a été donné en premier dans les 10 commandements? C'est quoi le premier commandement? En effet, tu serviras ton Dieu. Aimer, servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Amen. Est-ce que nous le vivons? C'était un déshonneur pour les Juifs d'être au service de quelqu'un d'autre. Pourquoi je fais ce signe qui veut dire on baisse finalement ? Parce que quand on commence à examiner les choses, finalement, on doit se poser la question, est-ce que je suis en train de servir Dieu ? Puisque ça fait partie de ce que, à quoi je suis appelé, servir Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas servir Dieu comme je le choisis, comme je le veux. Je fais un choix, je regarde. Alors, pasteur, qu'est-ce que tu as à me proposer ? Le ménage, non, ça ne m'intéresse pas. L'entretien à l'extérieur, non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il n'y a pas ceci ou cela ? Parce que là, je me sens mieux. Ce n'est pas ça, servir. Je disais à quelqu'un vendredi, mon beau-père, quand il est allé se présenter auprès de son pasteur parce qu'il voulait servir le Seigneur, il avait un appel sur le cœur. Son pasteur, il dit, c'est très bien, écoute, tous les dimanches matins et tous les vendredis, tu viendras au moins 2 heures avant la réunion, tu allumeras le feu pour que les frères et sœurs, quand ils arrivent, la salle soit chaude. Et le samedi, tu iras couper le bois chez la mamie Intel parce qu'elle n'a personne pour le faire. Et seulement après un an, il lui a dit, ben, vendredi, tu prépares une petite pensée et on va voir. Il a voulu d'abord voir si finalement ce désir de servir était au profond de son cœur. Peu importe le service, l'important est de servir le Seigneur, non ? Si je le fais pour Dieu, je ne le fais pas pour moi. Et finalement, dans ce texte, il est question pour nous de comprendre qui nous servons. Et au même temps, il parle de celui qui sert, qui est attaché à l'argent, qui est attaché aux inquiétudes. Et vous savez, on peut finalement tomber esclave des inquiétudes. Vivre et travailler au service des inquiétudes. Je suis inquiet pour le lendemain, donc il faut que je travaille plus pour gagner moins. C'est l'inverse. Je vais manquer de ça, il faut que je fasse plus. Et l'inquiétude prend une place prépondérante dans ma vie au point que finalement, je n'endors plus. Aujourd'hui, plus que jamais, on tombe malheureusement parce que le monde fonctionne comme ça. Plus tu en fais, plus on veut que tu en fasses. Et on charge et on surcharge au point que les inquiétudes nous amènent à un burn-out. C'est les inquiétudes. Et Dieu ne veut pas nous charger à tel point que nous tombions en burn-out. C'est nous qui nous chargeons parce que nous sommes inquiets. Peut-être inquiets de dire je n'y arrive pas, j'ai besoin de doubler de travail. Vous savez, parfois on peut se mettre une pression immense sur les épaules, non pas parce que Dieu nous le demande, mais parce que nous on veut tellement bien faire. Et finalement, on en fait trop. On en fait trop et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et le Seigneur nous dit, mais, tout doux, rentre dans mon sabbat. Attends Seigneur, je n'ai pas commencé à travailler et tu me dis de rentrer dans le sabbat. Le sabbat, je pourrais faire tellement de choses, je récupère et dans la semaine, je serai un peu soulagé de la charge de travail. Mais finalement, si tu ne rentres pas dans le repos de Dieu, tout le reste t'écrasera. Servir Dieu, ce n'est pas finalement être au service des fonctions, mais rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. Servir Dieu et sortir des inquiétudes. Il dira finalement au verset 25, c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas. Et au verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet de ceci ou de cela ? Être inquiet, ça veut dire être troublé. Y a-t-il du trouble dans ton cœur ? Est-ce que tu vis aujourd'hui les temps qui sont là avec ce sentiment d'être troublé dans l'incertitude, dans la crainte, dans la confusion? Il y en a aujourd'hui qui n'osent plus peut-être même sortir de chez eux, ils ont peur de l'insécurité. Alors, excusez-moi de dire ça, tu peux être chez toi, enfermé chez toi, et tu peux tomber d'une échelle. Ce n'est pas les autres qui t'ont agressé, c'est que... Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre en danger, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas tenter Dieu. Mais le Seigneur nous invite à vivre notre vie en comptant sur sa grâce. Et à dire, Seigneur, conduis-moi, amène-moi. Attention, lorsque l'on sert les inquiétudes, ces derniers nous assujettissent et nous détruisent. J'ai rencontré, il y a plusieurs années de cela, un monsieur qui avait 94 ans. Et il travaillait toujours 12 heures par jour. Il avait cumulé une fortune, je vous assure, une fortune. Mais vous auriez eu du mal à le suivre. Ah, ce n'était pas quelqu'un qui regardait le travail, hein, à y aller à fond. Hein. Et un jour, il est mort. Et vous savez quoi? Il est reparti sans rien. Parfois, c'est seulement au moment où on se trouve confronté à la réalité qu'on réalise que finalement, on s'est peut-être rendu esclave. Au lieu de posséder les choses, c'est les choses qui nous possèdent. Finalement, les inquiétudes étaient telles pour lui qu'il avait peur de manquer. Mais de manquer de quoi? Il n'a jamais profité de sa retraite. Et il n'a jamais pensé à son âme. C'est terrible, hein? Pas seulement il a souffert sur la terre, mais il souffrira aussi pour l'éternité. Alors la parole de Dieu nous invite finalement à dire, Seigneur, alors qu'est-ce que je dois faire? Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est... Alléluia! Ce matin, j'entendais au journal ces personnes qui, malheureusement, avec cet excès de pluie, se sont retrouvés avec des maisons inondées. Sincèrement, ça fend le cœur de voir des personnes, des hommes, des femmes, jeunes ou moins jeunes, avoir ce sentiment d'avoir tout perdu, d'avoir tout est arraché, tout est abîmé, tout est cassé, tout est... Et finalement, de se dire, on ne sait pas si les assurances, on ne sait pas, on espère, mais on s'attend quand même à y remettre des sous, à y remettre des plumes. Moi, je lis ce texte et il me dit « Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans les années de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. » Amen. Et si ce matin, tu faisais le choix de t'assurer auprès du bon assureur? Jésus assurance. Hein? L'assurance céleste. L'assurance que Dieu veut nous donner. Il y a aussi dans le psaume chapitre 1, verset 3, il dit comme ça, « Il est comme un arbre planté près du cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, waouh, pas de stress. » Je n'ai pas l'inquiétude d'y arriver ou ne pas y arriver. Je sais que si je me place entre les mains du Seigneur, c'est le Seigneur qui m'aidera à y arriver. J'enlève cette pression qui peut être sur mes épaules ou peut-être sur dans mon cœur de dire, Seigneur, je ne vais pas y arriver. Vous savez, j'ai fait cette erreur. Je dormais 3 heures par nuit. Et je passais ma nuit à travailler les messages, à préparer ceci, à faire cela, parce que je pensais que c'était comme ça que Dieu attendait que je le serve. Je me suis épuisé. Épuisé. Et finalement, ça m'a amené à devoir réaliser que j'avais fait fausse route. Je bénis le Seigneur parce que dans sa grâce, il a mis en œuvre tout ce qu'il fallait. Vous savez, il y a un moment, on n'écoute pas. Je ne sais pas si vous êtes têtu comme moi. Moi, je suis calabré, je suis têtu, c'est comme ça. Ma femme en sait quelque chose. Je dis bien ou je dis juste? Vous avez la confirmation. Et à un certain moment, le Seigneur m'a arrêté. Ça a commencé par des soucis de santé. Ça a commencé par la difficulté de prêcher. Par moments, je me disais, Seigneur, j'ai l'impression d'être vide. Et parce que finalement, j'étais tellement plongé dans le service que j'avais oublié qui je servais. Et je comptais beaucoup plus sur mes capacités que sur le fait que Dieu devait me donner lui son onction et que c'était sa parole qui devait finalement couler dans mon cœur et après pouvoir la répandre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, n'est-ce pas? Et il y a un moment où le Seigneur, finalement, il m'a arrêté. Et je me rappelle de ce jour où je suis allé voir mon médecin et il m'a dit, « Monsieur Nsinga, je vous mets en arrêt. » Je lui ai dit, « Vous pouvez toujours l'écrire, mais je ne suis pas sûr que les PTT puissent se distribuer. » Il dit, « Pourquoi vous dites ça? » « Parce que mon employeur, c'est Dieu. » Donc, à moins que vous ayez l'adresse mail directe, je dis, va pas recevoir. Je dis, par contre, j'entends ce que vous dites et je vais faire le nécessaire. Et j'ai demandé au Seigneur de me donner sagesse et je bénis le Seigneur parce qu'il a permis aussi que je puisse avoir autour de moi des frères sur qui j'ai pu me reposer et finalement apprendre à déléguer. Ce n'est pas évident d'apprendre à déléguer quand on a toujours tendance à tout faire tout seul. Vous savez, parfois on arrive dans une église où il n'y a pas forcément tous les corps de métier, on est là et on fait tout, on ouvre. On fait le ménage, on range les chaises, on accueille, on fait la prédication, on fait la louange. Qu'est-ce qu'on fait encore? On prie pour les frères et sœurs, on fait à la fin encore les entretiens, on finit par vérifier si tout est éteint et tout est fait, on ferme l'église, on rentre à la maison et on est épuisé. Et là, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux? À votre avis? Et si ça arrive, c'est faute de quoi? Pour moi, il y a deux problèmes. Le problème premier, c'est si le pasteur il ne dit rien. Problème deux, si l'Église elle n'entend rien. Servir Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un honneur, c'est un choix. De dire, Seigneur, moi je veux t'honorer, je veux te servir. Et la parole de Dieu me dit que si je suis fidèle dans les petites choses, Dieu m'en confiera de plus grandes. Mais que le Seigneur puisse nous trouver, chacun de nous, en étant non pas surcompté sur nos capacités ou nos moyens, mais de dire, Seigneur, je veux compter sur toi. Car vous savez, ceux qui comptent sur leurs moyens, ceux qui s'inquiètent du lendemain, ceux qui pensent qu'il faut ceci ou cela pour réussir, il dit la parole de Dieu quelque chose de très fort, verset 32, « Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. » Qu'est-ce qu'est un païen? Dites-moi. Quelqu'un qui est sans Dieu. Ça n'existe pas. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'as pas un Dieu. Tu en as un, mais ce n'est pas le bon. Peut-être c'est toi-même. Peut-être c'est l'ennemi. Mais tu en as un. Peut-être c'est ton travail, ton Dieu. Peut-être c'est ton argent, ton Dieu. Peut-être c'est ta famille, une famille parfaite. Seigneur, je veux une famille parfaite. Ma femme, quand elle se réveille, Seigneur, elle doit être coiffée, mais nickel. Non? Une famille parfaite où les enfants, tu dis A, ils ont fait A plus B plus C. Vous savez, là, on met une pression énorme sur les enfants. Tu as ramené quoi comme note? 20 sur 20, ce n'est pas suffisant. Fais 25 sur 20, on en discutera. Hein? Et il faut plus parce qu'il faut montrer aux autres, il faut finalement avoir la rage. Mais la Bible, ce n'est pas ce qu'elle me dit. Je dois avoir la paix au profond de mon cœur. Et que ce que Dieu me demande de faire soit pour moi un sujet de joie. Alors j'aimerais vous partager le vrai remède à l'inquiétude. Parce que le tout, ce n'est pas de dire qu'il y a de l'inquiétude. Ça, vous le saviez avant de venir. Peut-être que vous avez même prié en disant, Seigneur, aide-moi à sortir de l'inquiétude. Mais comment sortir de l'inquiétude? Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 dira, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Waouh! Magnifique. On peut le relire ensemble? J'aimerais que vous puissiez le dire à haute voix, parce que vous savez, c'est aussi proclamer la parole de Dieu. Et finalement, s'approprier de la parole. Ne vous inquiétez de, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. En effet, chaque fois que nous prions, nous renouvelons notre confiance dans la fidélité de Dieu et nous déchargeons sur lui de toutes nos inquiétudes et de nos problèmes. Amen. Seigneur, je sais à qui apporter mes fardeaux. Seigneur, tu m'as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés et inquiets. Ce n'est pas écrit inquiet, mais vous pouvez le rajouter, c'est la même chose. Un fardeau, c'est une inquiétude, non? Et le Seigneur me dit, viens, viens, Amène ton inquiétude, dépose-la au pied de la croix et repars avec la paix. Puisqu'il nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ça veut dire que tu n'as plus à te poser le problème. Tu as juste à attendre la solution. Et là, tu apprends la patience aussi. Tu dis, Seigneur, moi je sais que toi tu vas agir, je ne sais pas à quel moment, mais tu le feras. Et vous savez, quand Dieu agit, il ne fait pas les choses à moitié. Parce que nous, parfois, on voit un début de solution et on se jette pied et main sur l'histoire, on dit c'est ça. Non, 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 attention, parce que l'ennemi aussi va essayer de te piéger. Toi, fais confiance à Dieu, laisse-le agir, parce que la bénédiction que Dieu donne, elle est suivie d'aucun chagrin. Et nous, parfois, on se lance dans un truc et après on dit, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais Dieu m'a dit, non, attends, calme-toi. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu œuvrer. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais ce n'est pas mon problème. Tu vas le faire. Il y a des fois, vous savez, dans les sujets qu'on partage, dans la prière, quelqu'un me dit, voilà, pasteur, il y a ça. Et moi, dans mon cœur, je dis, Seigneur, c'est rien ça pour toi. Qu'est-ce que c'est ça pour toi? Qu'est-ce que c'est un travail pour Dieu? Rien. Qu'est-ce que c'est quelconque besoin que nous pouvons avoir pour le Seigneur? Ben rien. Je dis, Seigneur, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ce sont où les vrais problèmes? Il n'y en a pas. Alors, ben rentre chez toi, va en paix. Ne t'inquiète pas, Dieu s'en charge. Et on voit la manière où Dieu intervient et souvent la personne, elle vient me voir et me dit, il y a un truc qui s'est passé, on n'a pas touché, ça s'est fait tout seul. Et moi, je souris au fond de mon cœur, je dis, Seigneur, c'est trop bon de pouvoir compter sur toi. Seigneur, c'est vrai, quand on se décharge sur toi, toi, tu prends soin de nous. Moi, je n'ai pas la baguette magique. J'aimerais bien pouvoir finalement, sincèrement, je vous le dis, si je pouvais à chaque fois qu'il y a, dire, écoute, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, la distribution des bons points, vous savez. Mais ce n'est pas ce que Dieu me demande. Le Seigneur me dit, quelqu'un vient à toi, viens avec lui. Et ensemble, on va au pied du Seigneur. Et on dit, Seigneur, ce que deux s'accordent à demander dans la prière, tu leur donnes. C'est ça que Dieu attend. Et on se décharge ensemble devant le Seigneur. On dit, Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi oui. Seigneur, je compte sur toi. Et il dit que sa paix vient nous habiter et garder notre cœur du sentiment d'inquiétude et de ceux qui l'engendrent. N'est-ce pas? Philippiens chapitre 4, verset 7, nous l'avons lu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de calculé. Il n'y a pas quelque chose que je peux finalement organiser dans ma tête. Il y en a qui sont très organisés dans leur tête. Ils réfléchissent à tout. Tout est compté au millimètre, il n'y a pas d'erreur. Ils ont fait un plan de carrière. Et un jour, il y a un jeune étudiant qui sort de l'université, qui rencontre son ancien prof. Et son ancien prof est chrétien. Et ce prof, il voit ce jeune homme qui est super intelligent, des résultats magnifiques. Quelqu'un dont on peut être fier de dire, voilà, il est sorti de cette promo et lui dit, alors, qu'est-ce que tu as prévu pour l'avenir? Alors, dis-moi maintenant. Et il dit, ben, je vais trouver un bon travail. C'est bien. Et je vais gagner beaucoup d'argent. OK. Et après, je vais trouver une jolie épouse. Très bien. Et je vais me marier. C'est bien, c'est mieux. Et on va avoir des enfants. Super. Et on va acheter une belle maison. OK. Et après, je vais acheter une maison pour les vacances. D'accord. Et après, je vais commencer à mettre de côté pour la retraite. Très bien. Et après, je vais mettre de côté pour les enfants, pour les études. Très bien, magnifique. Et après, il commence à être à court d'idées. Et après, je ne sais pas, je vais profiter de la retraite. Je vais m'acheter un voilier. OK. Et après, eh bien, je vais voyager dans le monde entier. Oui, très bien. Et après, et au bout, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et dit, ta vie éternelle, tu as y réfléchi? Parce que ce n'est pas après qu'il faut s'en occuper, c'est maintenant. Parfois, on a fait un projet, voire même parfois, c'est le projet des parents qui est rentré dans le cœur des enfants. Papa m'a dit, je dois être ceci, je dois faire cela. Alors moi, je ne vous cache pas que mon rêve, c'était que mes enfants deviennent aussi serviteurs de Dieu. Mais je dis, Seigneur, ça ne doit pas être mon rêve. S'il n'y a pas un appel de ta part, ça ne sert à rien. On est d'accord. Et je dis, Seigneur, ce qui est le plus important, c'est qu'on fasse ce que toi, tu attends de nous. Parce qu'à quoi sert-il d'être un mauvais pasteur ? Mieux être déjà un bon serviteur dans l'Église, tout simplement, et s'attacher au Seigneur, parce que ça, c'est l'essentiel. Le reste, ça viendra si c'est le plan de Dieu. Et il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est lui qui nous fortifie et nous aide de ce que nous avons à accomplir et dans ce que nous traversons. Dans le texte que nous avons lu, vous avez vu à un moment, le Seigneur lui-même cite un roi. Salomon. Vous avez jamais fait le parallèle et pourquoi il dit ça de Salomon ? Il y a un texte, je vous le partage au passage parce que c'est intéressant. 1 roi chapitre 10, versets 4 à 7. Il dit, la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Et elle en perdit le souffle et il dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne m'a pas annoncé la moitié. » Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. En lisant ça, je me disais, Seigneur, finalement, c'est le monde qui doit voir en nous ce que tu fais, et non par un étalage de richesse, mais par une réelle bénédiction présente dans notre vie. Par le fait de vivre dans la paix du Seigneur, quoi qu'il arrive. De dire, Seigneur, c'est vrai, notre monde en ce moment, il est bouleversé par des guerres. On voit la méchanceté des cœurs, on voit des sentiments qu'on pensait ne plus être parmi nous, en tous les cas, pas dans un pays qui a souffert de choses terribles, où des hommes et des femmes ont donné leur vie pour que nous ayons la liberté qui est la nôtre aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et on se dit, Seigneur, pourquoi ce monde part dans de telles choses ? Mais tout simplement parce que le Père des inquiétudes, le Dieu de l'insécurité, celui qui est venu pour détruire tel que la parole de Dieu nous le dit, essaye et fait son œuvre. Et alors nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Qu'est-ce que Dieu veut de nous ? C'est que nous soyons le sel de la terre, que nous soyons ceux qui rayonnent de la lumière de Jésus-Christ. Et pour cela, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de sa grâce. Et il dira au verset 33, « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Servir le roi et vivre à sa cour. » Ah, moi, c'est comme ça que je l'entends. Si je vis à la cour du roi des rois, je ne manquerai de rien, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous plaît, le programme ? Parce que si Salomon, il avait bâti des maisons pour ses serviteurs, ils étaient bien habillés, ils mangeaient bien, ils vivaient bien, vous pensez que Dieu va nous laisser à moitié de ce qu'il a commencé ? Mais je pense que la nourriture, les vêtements, c'est rien. Parfois, on se focalise là-dessus. Et pourtant, les modes, elles passent, non ? Vous n'utilisez pas les mêmes habits que les années 70, même si la mode, elle revient de manière cyclique, non ? On est dans un pays où finalement, on est dans une surconsommation, au point qu'il y a des gens, ils mettent les habits, ils ne les lavent même pas, ils ne les lavent pas non plus après. Parce qu'on est dans cette consommation, et je dirais dans cette idéologie qui fait qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais le Seigneur me dit que ce que j'ai besoin, il est déjà prêt pour moi. Et pas seulement pour moi, mais pour ceux qui cherchent premièrement quoi ? Alléluia ! Est-ce que tu cherches le royaume de Dieu et sa justice ? Alors je voudrais vous dire que nous ne devons pas manquer notre vocation. dans l'Ancien Testament, avait déjà été annoncé, puisque le peuple élu a manqué sa vocation de serviteur de l'Éternel, Dieu appellerait un autre peuple à remplir cet office. Vous vous rappelez ? C'est la manière où Dieu dira au peuple d'Israël, parce que vous avez manqué, je me choisirai autrement. Ça a été le cas pour ceux qui étaient finalement les sacrificateurs dans le temple. Je vous rappelle que lorsque Samuel, ce jeune homme, est né parce que Dieu avait finalement donné à cette femme qui était stérile et lui avait donné un enfant. Vous vous rappelez de cette histoire ? Anne qui prie devant le Seigneur et dit « Seigneur, je ne peux pas avoir d'enfant, tu vois la peine qui est la mienne ?» Et en plus, la deuxième épouse de son mari qui s'appelait Pénina, elle portait bien son nom, elle ne faisait que la rabaisser, la meurtrir, la mettre en souffrance. Et cette femme, elle vient avec sa foi devant le Seigneur. Elle prie. Et Dieu lui accorde un enfant. Elle dira, je le donnerai à l'Éternel pour qu'il serve l'Éternel. Elle n'a pas fait un deal, elle n'a pas fait un jeu, je te donne et je garde. Parce que finalement, c'est ce qu'elle fera. Elle a pris un engagement et la parole de Dieu nous dit que Dieu se souvenait encore de Anne. Elle a eu d'autres enfants. Parce que Dieu, quand il bénit pas à moitié. Mais quel bonheur pour elle de savoir que son fils était là au service de l'Éternel. Cet enfant n'aurait jamais dû devenir ce qu'il est devenu. Sauf que celui qui avait le poste, excusez-moi, n'a pas su se tenir de la bonne manière, ni lui, ni ses enfants. Et Dieu changera les choses. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est certes peiné, moi je suis le premier à être peiné pour nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont Israël. Et je prie que le Seigneur fasse que par les situations qu'ils sont en train de traverser, que le Seigneur puisse leur donner une révélation de Jésus-Christ. C'est horrible. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Moi, je suis pour la paix en tout lieu. Qu'on se comprenne. Parce que je crois que la guerre n'a jamais apporté rien de bon. Les conflits n'ont jamais rien apporté de bon, si ce n'est le déchirement, et parfois même dans les mêmes familles. Mais ce que je crois, c'est que le Seigneur veut finalement établir un peuple qui marche d'une manière différente. Et si certains ont manqué leur vocation, que Dieu nous garde de louper la nôtre. Parce que comment ferons-nous à rattraper les choses quand on sera devant le Seigneur ? Est-ce que vous imaginez un instant le jour où on sera devant le Seigneur ? Dites-moi, vous y avez déjà réfléchi ? Qu'est-ce que vous attendez que le Seigneur vous dise ? Ah, pardon ? Répétez, excuse-moi, je n'ai pas compris. Vas-y, ma sœur, répète. Ah oui, mais pour être reconnu serviteur, il faut avoir Hartung. Attention, que Dieu me garde de ne pas servir le nom du Seigneur. Alors, quand je regarde la parole de Dieu, je vois que celui qui sert le Seigneur, Dieu appelle quelqu'un et il est choisi par le Seigneur, revêtu de son esprit. Il est enseigné, fortifié par lui. Il est faible et méprisé, mais doux et humble. Il est exposé à des souffrances et des manqueries. Et malgré cela, il place sa confiance dans le Seigneur. Il lui obéit. Il remporte ainsi la victoire. Il est donc le modèle idéal du serviteur de Dieu. Et là, je viens de citer Jésus-Christ. Souvenez-vous. Le Seigneur lui dira, celui qui voudra devenir grand parmi vous, prendra la place d'un serviteur. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Marc, chapitre 10, versets 43 et 44. Servir Dieu, ça devrait être notre bonheur. Et à chaque fois qu'on sert Dieu, on le loue. À chaque fois qu'on est là en train de faire quel qu'il soit le travail qu'on fait, peu importe. Parce que je crois que nous avons besoin les uns des autres. Moi, en tous les cas, je ne pourrais pas me passer de vous. Non pour une question de dire oui, mes frères. Non. C'est parce que l'Église est tout un. Non ? Quel est le sens premier d'un ministère si ce n'est d'exercer le ministère auprès des frères et sœurs? Et j'ai besoin de vous, et on a besoin les uns des autres. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, et la parole de Dieu nous a rendus interdépendants. Et ensemble, nous avons besoin du Seigneur, lui qui est l'exemple parfait du serviteur. Donc si aujourd'hui je sers le Seigneur, je désire le faire à l'image de Christ. Et je crois que là où le Seigneur me mettra à servir, pas seulement il m'envoie, mais il m'équipe. Êtes-vous d'accord avec ça? Si je ne suis pas équipé, je peux me mettre à genoux et dire, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. On est arrivé dans une église que le Seigneur nous a confiée. Quand on est arrivé dans cette église, on a vu la situation de l'église, la souffrance de l'église. Et je vous assure, j'étais dépassé au plus profond de mon cœur. Et le premier jour que j'ai eu les clés de l'église, je suis allé à l'église, j'ai fermé la porte, je me suis mis assis et là, j'ai pleuré. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas par où commencer. La situation était vraiment compliquée. Et là, le Seigneur m'a donné une vision. Je me suis attaché à cette vision. Je l'ai partagée à l'Église, cette vision. Et on a vu la manière où Dieu a relevé l'Église. Alors, Dieu ne fait pas de la même manière partout. Des fois, on rentre dans la vision qui a été déjà donnée. Et d'ailleurs, quand on arrive dans une Église, on n'est pas là pour amener sa propre vision. On rentre dans la vision de Dieu pour l'Église. Moi, personnellement, je ne comprends pas que certaines églises fonctionnent en disant, frère, quelle est votre vision? T'en as quoi à faire de ma vision? La vraie question qu'on doit se poser, c'est quelle est la vision de Dieu pour l'église? Et là, on y travaille ensemble. Et je crois que quand on agit selon la vision de Dieu, ben Dieu multiplie, Dieu accomplit, Dieu fortifie, Dieu fait lever des ministères. Dieu agit d'une manière telle que finalement, il y a quelque chose qui nous amène plus loin. C'est pourquoi il est question pour nous, frères et sœurs, de dire, Seigneur, sois mon exemple. Dernier texte. Luc chapitre 12, versets 15 à 21. C'est toujours Jésus qui parle et dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité ou de tout désir de réussite ou tout je ne sais pas quoi. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même en disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Moi, je me dis, Seigneur, donne-nous d'être riches pour toi. Amen. Seigneur, donne-nous d'avoir finalement dans le ciel cumulé ce trésor qui n'est pas en pièces à la Picsou. Ne vous imaginez que quand vous arrivez dans le ciel, le Seigneur vous a préparé un bâtiment style celui de Picsou. Vous connaissez Picsou? Ah, vous regardez les bandes dessinées. Bande d'enfants que vous êtes. C'est pas ça. La plus grande richesse, c'est quoi? Ce qui a vraiment de valeur, c'est quoi? Il y a une femme sur la terre qui a osé prendre une place. Je trouve que c'est la place la meilleure. Et il y a un homme aussi qui a pris une place, et les deux, elles sont nickel. Le premier, je cite Jean. Lui, poser sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il y a meilleure place? Mais il y en a une autre qui est bien aussi. Hein? Marie qui se met aux pieds de Jésus. Et Marthe dit, Seigneur, t'as pas vu ma sœur, regarde. Et dit, elle a choisi la bonne part et il ne lui sera pas enlevé. Qui veut être aux pieds du Seigneur? Qui veut être sur la poitrine du Seigneur? alors faisons-nous un trésor dans le ciel. Parce que le vrai trésor, c'est lui, c'est Christ. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, merci pour ta parole qui encore ce matin, Seigneur, nous encourage. Seigneur, à faire des choix, à prendre des positions. Certainement, Seigneur, aussi à revoir peut-être certaines choses dans notre cœur, dans notre vie. Seigneur, je voudrais te prier particulièrement pour ceux et celles qui, malheureusement, l'inquiétude a pris place dans leur cœur, dans leur vie. Et donc ce matin, Seigneur, ils font appel à toi pour sortir de cette inquiétude. Seigneur, je te prie qu'en ce moment même, ta main guérissante puisse venir, Seigneur, et se poser sur les cœurs des uns et des autres. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, par amour de Jésus-Christ, qu'une paix du ciel descende sur les cœurs ce matin et que ceux qui sont venus avec des fardeaux repartent le cœur léger. Seigneur, je sais qu'en faisant appel à la personne de Jésus-Christ, en demandant à celui qui a pris le poids de nos fautes, de nos péchés et aussi de nos incompréhensions à la croix, nous recevons, Seigneur, pas seulement le pardon et la justification, mais aussi la grâce. Seigneur, que ton amour vienne combler les cœurs ce matin, que ceux qui ont été peut-être détruits par les inquiétudes et les choses, Seigneur, il y a une réparation, une restauration qui se fait par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour notre jeunesse. Je te prie pour ceux qui, Seigneur, peut-être ont mis de côté les projets, Seigneur, en ayant peur de l'avenir. Seigneur, que ta paix soit sur eux. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui, Seigneur, souffrent pour avoir un enfant. Seigneur, ce que tu as fait pour Anne, je sais que tu peux le faire pour nos sœurs ce matin. Seigneur, ce que tu as fait pour toutes ces femmes dans la parole de Dieu comme Sarah, Seigneur, tu peux le faire ce matin. Seigneur, étends ta main, s'il te plaît. Tu as dit que tu prendras soin de ton peuple, que tu donneras à tes enfants, Seigneur, d'être père et mère d'une multitude. Seigneur, certes, c'est vrai spirituellement, mais je te prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, d'enlever toute forme de stérilité par le nom de Jésus-Christ. Par l'action du Saint-Esprit, par l'amour que tu manifestes à tes enfants. Viens secourir les couples en souffrance, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci de pourvoir du travail à ceux qui sont en recherche de travail. Seigneur, merci de donner la paix quant à l'avenir pour ceux qui sont aux études, Seigneur. Notre confiance, elle est en toi, Seigneur. Non pas dans les hommes, non pas dans les possibilités que le monde peut nous offrir, mais dans celui qui est notre richesse, Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous tous. Amen.